Je vous invite à lire avec moi les trois premiers versets de ce livre tellement facile à trouver. C'est le tout dernier. Apocalypse 1, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ta parole nous a été donnée comme une boussole sur notre chemin, comme une lumière sur notre sentier. Nous vivons dans un monde ténébreux, nous vivons dans un monde où il est souvent difficile de tenir pour toi. Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, nous fortifier, comme nous croyons que tu l'as déjà fait. Et Seigneur, que ta parole puisse nous enthousiasmer, que ta parole puisse nourrir notre âme. Et Seigneur, que par ta parole, nous puissions savoir où aller. Dirige-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Amen. Elie Wiesel, le prix Nobel juif auteur, raconte dans un de ses livres son enfance dans le ghetto, un des ghettos en Hongrie, où il a grandi durant la guerre. Peu à peu, il y a... Attends, je vais d'abord essayer de faire caler tout ce que j'ai. Voilà. Peu à peu, l'étau s'est resserré sur le ghetto et peu à peu, l'anxiété a commencé à augmenter chez ces gens qui étaient de plus en plus ramassés dans un petit endroit. Et puis, a commencé le premier transport vers Auschwitz. Et il raconte que dans ce premier transport, le simplet du coin était de la partie. Personne, ça nous étonne aujourd'hui, personne ne se disait qu'ils allaient à la destruction. Quelque temps après, le simplet revient. Par miracle, il a pu s'échapper de Auschwitz. Et il a raconté ce qu'il a vu. Personne ne l'a cru. Si vous avez regardé le film de la liste de Schindler, la RTB l'a montré il n'y a pas longtemps, et j'étais frappé par ces Juifs qui venaient d'être ramassés dans le ghetto et qui se disent l'un à l'autre « Ah, ça ne peut pas devenir pire !» Et pourtant, tout était écrit. Depuis les années 20, dans Mein Kampf, le livre de Hitler. Puis, sur les cendres encore chaudes de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme, fut construite la terreur d'un régime stalinien dont nous avons vu la fin seulement il y a 20 ans. Et on vient de le célébrer, la chute du mur. Et on se dit, comment est-ce possible que dans l'Europe moderne, cela ait pu avoir lieu, la terreur stalinienne. Cela paraît un autre monde. Sûrement, cela ne peut pas arriver encore. Mais la bête n'est pas morte et la cage est ouverte. L'Apocalypse est à la fois le livre de la plus grande horreur et de la plus sublime espérance. Jésus-Christ va revenir et établir son règne. Mais avant cela, la bête doit venir et il fera la guerre aux saints, vous, moi, et il les vaincra. Ce livre, bien sûr, pique la curiosité d'un grand nombre et il rebute tout autant par son caractère fermé, caché, hermétique. En plus, avec tout ce qu'on a déjà annoncé et écrit sur ce livre, n'est-on pas devenu un peu sceptique ? Qui peut vraiment savoir ? Qui peut dire qu'il comprend ce livre difficile ? Parfois, lire un livre sur l'Apocalypse n'arrange rien. Je ne sais pas si vous avez jamais fait cette expérience. J'ai lu un commentaire anglais. Je ne dis pas que ça, c'était la raison, mais c'était comme ça. Un livre sur l'Apocalypse. Et quand je l'ai fermé, je me suis dit, je préfère quand même l'Apocalypse. Ça m'avait l'air plus simple. Vous avez eu cette expérience ? J'espère que le livre que je suis en train de lire ne vous donnera pas cette impression. La conséquence de ces choses, c'est que nous, qui sommes probablement la génération qui verra l'accomplissement de toutes ces choses, mes amis, nous sommes la plus mal armée pour y faire face, pour faire face aux défis terribles de notre temps. Quand se révélera la bête dans toute sa fureur et dans toute sa séduction, saurons-nous résister et rester fidèles au maître qui doit venir? On m'a dit récemment que notre génération est celle qui connaît la Bible au plus mal de toutes les générations de chrétiens précédents. J'espère que si cela toutefois aurait été vrai jusqu'ici, qu'à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus vrai. Il est temps de nous réveiller. Nous allons donc regarder l'Apocalypse. Quelques remarques pour introduire. Tout d'abord, ne vous attendez pas à toutes les réponses, à toutes vos questions. Ne venez pas, j'espère, ici dans l'idée, voilà, maintenant je vais savoir, enfin, ceci, cela et encore autre chose. En quelques minutes, c'est bien sûr qu'un survol. Gérard Dagon aurait dit, on fait l'Apocalypse en TGV. C'est une entrée en matière. Et j'espère qu'avec nos autres rencontres d'aujourd'hui, ça pourra nous réveiller, nous rendre vigilants. Je vais essayer de partager avec vous quelques-unes des découvertes que j'ai faites en travaillant à mon livre. Ça fait 2-3 ans que je me couche et que je me réveille avec l'Apocalypse. Et peu à peu, on finit quand même par voir un tout petit peu clair. Une deuxième chose, vous n'allez pas partir d'ici en connaissant la date du retour de Jésus-Christ. Vous voilà déçus. André nous a introduit à un jeu, je vais continuer à son jeu. 2012, 21 décembre 2012, oui ? Aujourd'hui, si mes renseignements sont bons, sort un film dans les salles obscures qui s'appelle 2012. J'ai été voir la bande d'annonce et il se fonde sur l'arrêt du calendrier Maya au Mexique. Et cela veut dire que le 21 décembre 2012, Schluss, fin, rideau. Je pourrais au moins vous annoncer une bonne nouvelle. C'est un faux. Autre remarque, nous ne saurons pas court-circuiter l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez jamais lu de façon systématique le reste de la parole de Dieu, ne vous étonnez pas que vous ne compreniez rien à l'Apocalypse. C'est normal. Bienvenue à la discipline lente et parfois difficile de vous mettre à la lecture systématique et disciplinée de tout le conseil de Dieu. L'Apocalypse est le dernier livre, pas le premier. Alors, si vous ne comprenez pas encore, continuez à lire ailleurs. Sans lecture approfondie de tout le reste, comment comprendre ce livre difficile? Et puis, une promesse, celle que nous venons de lire. Et je crois que c'est vraiment, peu à peu, j'ai découvert ça. Vous allez me dire, eh ben, il t'a fallu du temps pour voir ça. Mais peu à peu, j'ai découvert cela, qu'une des grandes clés de l'Apocalypse, c'est au chapitre 1, verset 3, que nous venons de lire. « Heureux celui qui lit ». Parfois, nous sommes tellement remplis de toutes nos idées sur la fin des temps. Nous avons une théorie, puis nous avons lu une autre théorie, et puis nous lisons encore une autre théorie. Lisez l'Apocalypse. Lisez encore. Écoutez-le. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. Vous vous enregistrez, vous pouvez vous écouter. Non, pas vous écouter. Écoutez l'Apocalypse. Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent ». Je vais courtement m'attaquer à trois choses, comme toute bonne prédication. Où nous en sommes aujourd'hui, ce qui doit arriver bientôt et où tout cela aboutira. Tout d'abord, où est-ce que nous en sommes? Quand Jean, sur l'île de Patmos, voit le Christ ressuscité, tout tremblant, il reçoit l'ordre d'écrire cette lettre à cette église. Je pense que ces sept lettres sont comme les billets qui accompagnent le reste du livre. Et je pense que ça veut dire que toute église qui lit l'Apocalypse, avant de commencer à sortir les calculettes et pour dire c'est pour quand, il doit lire ces lettres et dire « Écoute, peut-être que Christ va revenir bien plus vite que tu ne le crois. » Le risque est là qu'il enlève le chandelier de l'endroit où tu es. Repens-toi, réveille-toi, sois vigilant. Ne t'endors pas. Cette église, ça, on ne peut bien sûr pas y échapper. Dès qu'on ouvre l'Apocalypse, on va se buter sur le chiffre 7 et sur beaucoup d'autres choses hautement symboliques. Dès que nous lisons 7, nous avons presque comme un déclic dans le cerveau qui nous dit « Ah, ça c'est un chiffre symbolique ». Et nous aurons à la fois raison et tort. Cela dépend. C'est vrai, c'est un chiffre symbolique, le chiffre qui dénote toute la plénitude. Mais si nous disons « cela ne veut pas dire 7, c'est symbolique », nous aurons tort. Ce n'est pas comme ça que nous devons commencer à lire l'Apocalypse. On ira dans le mur. Les symboles du livre ne sont pas là pour nous dire « lisez toujours ce que vous voulez, ce n'est pas ça ce que ça veut dire ». Non, tout d'abord, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand Jean doit écrire à 7 églises, il ne doit pas écrire à 8 églises, mais à 7. 7 égale 7. C'est en même temps symbolique, mais c'est aussi réel, un vrai chiffre. Le symbole ne remplace pas, mais il complète et il approfondit le sens. Le sens réel convient toujours, même si souvent il est en deçà de ce que veut dire ce livre. Je pense donc pas qu'il faut faire une lecture symbolique du livre, pas plus qu'il faut en faire, me semble-t-il, une lecture littérale. Je me suis retrouvé peu à peu dans le terme réaliste. Nous devons avoir une lecture réaliste de ce livre qui clôt la Bible. C'est la seule façon de lire qui fait droit au texte. Un autre exemple pour aller à autre chose. Il nous est dit dans le chapitre 12 que Satan est un dragon. Le fait que le dragon soit Satan ne veut pas dire « oubliez le dragon, c'est Satan ». Ça veut dire, bien sûr, qu'en plus d'être l'accusateur des frères, l'adversaire Satan, il est un dragon terrifiant. Sa terreur est bien réelle. Il est à la fois un dragon, un serpent, Satan et le diable. Nous ne devons pas nous servir du sens symbolique, quel qu'il soit, pour vider le sens réel du livre. Cette Église, est-ce que ce sont cette époque? Cette lecture a été pendant tout un temps en vogue chez un certain nombre de commentateurs. Nous serions alors aujourd'hui au temps de Laodicée. Je ne suis pas convaincu que ce soit ainsi qu'il faille lire les deux chapitres sur les sept églises. En fait, s'il y a sept églises, c'est que c'est en même temps la totalité de l'Église de Jésus-Christ. Ces lettres s'adressent à nous tous et nous sommes à toute époque. Il y a dans toutes nos églises un peu d'Éphèse, peut-être un peu de Smyrne, mais peut-être beaucoup moins. Et sans doute un peu, beaucoup de Laodicée, et ainsi de suite. Mais dire que nous pouvons attacher une époque à chaque lettre, je pense que c'est aller un peu vite en besogne. Jean reçoit alors l'ordre de monter au ciel. Et pour certains, on dit « Ah, ça c'est l'image de l'enlèvement, nous venons d'en chanter. Si seulement c'était aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui. » Et ce n'est pas demain non plus. Est-ce que le chapitre 4, verset 1, où Jean est invité à monter au ciel, est-ce que c'est une image de l'enlèvement? Est-ce que ça veut dire que la toute première chose sur le calendrier de Dieu, c'est de venir chercher l'Église que nous sommes et nous sortir de toute peine avant même que la peine ait commencé? Je ne suis pas tout à fait sûr que quand on lit ce livre, et c'est ce qu'on doit faire, quand on lit ce livre sans trop de préjugés, qu'on puisse sortir cela du texte. D'ailleurs, ce que Jean va observer, est-ce un futur lointain ou est-ce quelque chose qu'il a vécu de son vivant? Autrement dit, le livre que l'agneau va ouvrir, qu'il reçoit de la main de Dieu. Est-ce que ce livre est encore scellé aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que les quatre cavaliers d'Apocalypsis sont toujours sagement enfermés dans leur étable? Ou est-ce que ces chevaux terribles chevauchent déjà au travers de notre monde? Prenons ces questions une par une. Tout d'abord, la question qui est celle de la tribulation. Nous entendons parfois parler de la grande tribulation. Et avant même que cela ait lieu, nous serons enlevés. Je constate, Bible en main, que le mot tribulation s'adresse toujours à la situation des chrétiens. Il n'y a pas une seule exception, je crois, dans la Bible. La tribulation, c'est le lot commun des chrétiens. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et Paul pose la première question, la tribulation? Non. Soyez patients dans la tribulation. La tribulation n'est pas quelque chose dont Dieu nous sauve, mais dans laquelle Dieu nous garde. Nous devons donc non pas préparer l'Église à l'idée que, ploup, en ciel bleu, tout à coup, nous ne serons plus là, mais que nous allons devoir faire face à des choses difficiles et beaucoup plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous devons préparer l'Église de Jésus-Christ à la souffrance et à la persécution. Ce qui n'est pas épargné à des chrétiens dans la plus grande partie de notre monde, ne nous sera pas épargné. n'est pas parce que je suis un peu maso que je dis cela, mais parce que je crois que c'est là ce que dit la Bible. Et nous ne serions pas fidèles à la parole de Dieu si nous n'enseignons pas cela. Mieux vaut prévenir, n'est-ce pas, que guérir. Pourtant, Christ nous a sauvés de la colère à venir. L'apôtre Paul dit cela aux Thessaloniciens à plusieurs reprises. Christ nous a sauvés de la colère à venir. La tribulation nous est destinée, tristement. Que ce serait une chouette nouvelle de pouvoir dire avec beaucoup d'assurance, ne vous en faites pas, on sera dans nos transats célestes avant cela. Mais ce n'est pas comme ça. Mais la colère, nous n'y passerons pas. Et vous verrez, ça a une grande incidence sur la lecture du livre de l'Apocalypse. Cela veut dire aussi que si la tribulation nous est destinée, les cavaliers aussi sont de notre vivant. Et quiconque compare Matthieu 24, que Philippe a commencé de lire ce matin, à Apocalypse 6, où nous voyons le récit des quatre cavaliers de l'Apocalypse, vous ne pouvez pas voir autrement qu'une grande conformité entre ces deux. Les signes des temps tels que Jésus les énumère en Matthieu 24 et les passages parallèles, et les quatre cavaliers de l'Apocalypse et le cinquième sceau, ça c'est, on peut les superposer tellement que c'est pareil. Quand Billy Graham, j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un que je ne citerai pas d'auteur anglophone, j'avais tort. Quand Billy Graham écrit son livre sur la chevauchée des cavaliers de l'Apocalypse, il écrit sur une seule et même page, à deux, trois lignes d'intervalle, que cette chevauchée est encore future, c'est pour la fin des temps. Et puis il dit deux lignes plus loin, sans avoir, je pense, fait attention que c'est une belle contradiction dans les termes, mais nous en entendons l'écho déjà aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, un écho d'un bruit qui est encore futur. Non, nous entendons l'écho, il a bien raison. Et les cavaliers, nous savons, nous connaissons cela. La séduction, la guerre, la famine, les épidémies, tout cela est notre lot. Et la Bible nous dit qu'un quart de l'humanité périra par le biais de ces quatre cavaliers. Par eux, Dieu cherche à réveiller les consciences. Dieu cherche à corriger, à punir, jusqu'à ce que vienne la fin. Alors l'enlèvement, cela a lieu avant ? Non, l'enlèvement n'aura pas lieu avant. Nous allons devoir faire face à des temps difficiles. Mais Dieu nous sauvera in extremis avant que n'éclate sa grande colère. Le premier point sur le calendrier de Dieu, quand je lis ce que Paul en écrit en 2 Thessaloniciens 2, je lis ceci. « En ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, » ça, c'est l'enlèvement. « Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, d'abord, l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » Ça, c'est numéro 1 et numéro 2. L'apostasie, je pense que nous vivons en plein dedans, nous sommes peut-être presque au bout, on peut guère aller plus loin. L'homme impie, celui que l'Apocalypse appelle la bête, n'est pas encore là. Ça va venir d'abord. Est-ce que nous connaîtrons l'Antichrist ? Est-ce que nous serons appelés à vivre pour Jésus-Christ sous le régime de la bête ? La réponse biblique est oui, mes amis. C'est à cela que nous devons nous préparer. Vous comprenez pourquoi il faut travailler à sa sanctification, pourquoi il faut travailler à connaître la parole de Dieu, à se laisser remplir et transformer par elle, parce qu'on va devoir faire face à ce genre de choses. Il y a bien sûr des gens qui nous disent « Oui, mais il ne faut pas chercher à trouver sa place dans l'Apocalypse. » On a déjà essayé cela et ça n'a pas marché. La question fait sourire certains. Chat échaudé craint eau chaude. Laissons le livre à ses symbolismes difficiles et occupons-nous de notre petite vie. Non, mes amis, mille fois non, on ne peut pas faire ça. On risque trop gros. Nous devons nous réveiller. Nous devons être au travail. Nous devons préparer et hâter ce jour. Où en sommes-nous? Il me semble que quand je lis Apocalypse 6, que même le cinquième sceau est déjà ouvert depuis longtemps. La persécution est le lot de combien de générations de chrétiens jusque dans notre pays? Nous sommes épargnés, étrangement. Nous sommes cette exception de la règle. Nous vivons dans la paix européenne. Pour combien de temps encore? Nous ne le savons pas, mais ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer. La Bible nous dit autrement. Où en sommes-nous alors? Il me semble que nous allons assister, je ne sais pas quand, à l'ouverture du sixième sceau. Plus je lis l'Apocalypse, plus je bute contre ce sixième sceau. Dans beaucoup de commentaires, cela est donné comme une description de la fin des temps et du retour du Christ. Mais je ne crois pas que c'est ainsi. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le sixième sceau décrit un séisme gigantesque qui va faire crier aux grands de ce monde et aux petits, « Cachez-nous, rochers, devant la colère de celui qui est sur le trône et la colère de l'agneau. » Nous avons vécu à Noël 2006, nous avons vécu, nous n'avons rien vécu. On a vécu dans le sud-est asiatique un gigantesque tsunami, 250 000 morts. Ça n'a pas fait une grande vague dans notre monde, et je ne l'utilise pas comme un jeu de mots. Ce n'est pas ce qui a fait crier aux grands de ce monde « Cachez-nous !» Je pense que si ce gigantesque séisme devrait émouvoir les dirigeants politiques de notre monde, je pense que ce séisme ne peut arriver qu'à deux endroits de notre monde. Soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Je suis triste de devoir admettre que si demain un séisme avait lieu qui balayerait l'Afrique de la carte, après-demain, la vie continue. Donc je pense que ce séisme qui va, je pense, ça c'est ma compréhension, qui va déclencher le reste de l'Apocalypse, ce séisme aura lieu quelque part dans le monde occidental. Et cela va bien sûr changer complètement la géographie et le rapport de force dans notre monde moderne. Ce qui arrivera alors bientôt. On a commencé déjà en parlant du sixième sceau. Aussi vite après le sixième sceau, l'Apocalypse pose une question. Qui pourrait subsister? C'est la fin d'Apocalypse 6. Commence alors au chapitre 7 la réponse à cette question. Voilà le moment venu pour dire quelque chose sur la structure de ce livre. On avait préparé cela sur PowerPoint, mais on n'a pas le moyen de le montrer. Alors je vais essayer de le décrire en paroles. Si vous prenez la structure du livre de l'Apocalypse, vous avez toute une série de sept. Vous avez d'abord sept lettres, je montre cinq, mais je veux dire sept. Je sais compter. Il y a d'abord les sept lettres aux sept églises. Puis il y a les sept sceaux, chapitre 6 et début du 8. Puis il y a les sept trompettes, 8 et 9. Puis il y a les sept coupes, chapitre 16. Puis il y a ce que j'appelle les sept visions de l'aboutissement de toute chose, dans les chapitres 19 à 21.
C'est ce déroulement que je vois chronologique, je pense que c'est la seule vraie façon de considérer les choses, est interrompu à cinq intervalles par un genre de parenthèse pour répondre à une question posée ou une question sous-jacente. Qui pourra subsister ? Parenthèse du chapitre 7. Comment subsister ? Le parenthèse des chapitres 10 et début du 11. Puis, après, au chapitre 12 à 14, nous avons la grande parenthèse centrale qui nous explique comment on est arrivé là et où cela va mener. Puis, le déroulement du temps continue avec le versement de cette coupe. Et puis, à la fin de cette coupe, il y a encore une parenthèse qui nous décrit comment voir derrière les choses l'action de la grande prostituée assise sur la bête et qui termine avec la description des épousailles de l'agneau. Et puis l'histoire reprend. Christ revient sur un grand cheval blanc et la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu. Satan est pris et enchaîné et emprisonné pour 1000 ans. Christ vient établir son règne de 1000 ans. Et puis, Satan est relâché. Gog et Magog viennent envahir la Terre Sainte. Et puis, après le jugement dernier, des nouveaux cieux et une nouvelle terre est établie. Et puis après cela, une dernière parenthèse nous décrit la nouvelle Jérusalem. Et puis le livre termine avec quelques mots de conclusion au chapitre 22. Ça, c'est en quelques mots la structure. Dans cette première parenthèse, au chapitre 7, nous est expliqué comment, qui va subsister au travers des assauts de la fin des temps. Et la Bible révèle qu'il y a deux groupes. Les 144 000, ah, nous y voilà. Et la foule que nul ne peut compter. Les 144 000 sont présentés comme étant issus des 12 tribus d'Israël, nommément mentionnées 12 000 de chaque tribu. Pour certains, les deux groupes du chapitre 7 sont en fait deux façons de décrire le même groupe. Je pense qu'il est, me semble-t-il, un peu plus juste de voir tout de même deux groupes différents. Un groupe consistant de juifs et un groupe consistant de chrétiens. Ils sont d'ailleurs assez bien différenciés. Les uns sont tirés des 12 tribus d'Israël, ils sont comptés, ils sont isolés et ils sont indemnes. Nous les revoyons au chapitre 14, indemnes sur le mont Sion. Tandis que l'autre groupe sont tirés de tous les peuples, innombrables et martyrs. Ce ne sont pas le même groupe. Et nous pourrions et nous devons nous poser la question, je pense de temps à autre, mais qui va pouvoir subsister ? Et la réponse biblique, me semble, n'est pas que Dieu nous a promis une vie sauve, une vie physique sauve au travers de tout. Dieu ne promet pas que nous ne mourrons jamais pour son royaume, mais il nous promet que son royaume ne mourra jamais. Et cela nous suffira. Nous serons là si nous restons fidèles. Nous serons là en présence de l'agneau à la fin de toute chose. Puis, les sept trompettes se mettent à sonner. Quand le septième sceau est ouvert, apparemment, il n'y a rien qui se passe. Quand on lit l'ouverture du septième sceau, on lit qu'il y avait un silence d'une demi-heure, et puis rien. En fait, le septième sceau qui termine, qui est le dernier sceau du livre scellé que Jésus a pris de la main de Dieu, le dernier sceau, c'est la fin. Et puis, il y a comme un ralentissement. Peut-être qu'en cinématographie, on devrait dire un gros plan.
comme une intensification, quelque chose comme ce que Dieu dit dans Lévitique 26. « Malgré cela, si vous n'écoutez pas, je vous frapperai 7 fois plus. » Et cela se répète à 4 reprises en Lévitique 26. Je pense qu'en Apocalypse, on a quelque chose de semblable. Le 7e sceau contient 7 trompettes. Et la 7e trompette contient les 7 coupes. Chaque fois, c'est comme si le temps s'étire et que la fin n'est pas encore tout à fait arrivée. Alors les anges se mettent à sonner des trompettes. Et quand on lit ces chapitres bizarres, que sont les chapitres 8, 9 et 16, on n'est pas au clair. Qu'est-ce que Jean essaye de dire? Qu'est-ce qu'il a vu? Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que ce que nous avons dans ces chapitres difficiles de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean avec la compréhension du premier siècle et avec le vocabulaire du premier siècle, essaye de décrire des choses qui appartiennent à notre siècle. Essayez donc, en homme du premier siècle, je donne juste un exemple, essayez de décrire un hélicoptère. Je pense que vous allez arriver au genre de langage, si vous aviez été versé dans les images du premier siècle, vous allez arriver au genre d'image que Apocalypse 8, 9 et 16 décrivent. Je pense personnellement que les trompettes et les coupes, c'est Dieu qui retire sa main quelque peu et qui dit au genre humain devenu fou, « Tu veux aller là ? Vas-y, tu veux voir ? Tu verras. » Et c'est comme si la providence de Dieu est légèrement retenue et l'homme reçoit la terrible liberté de s'autodétruire. La boîte à Pandore nucléaire est sans doute ouverte. Et nous dit la sixième trompette, à l'Orient, une armée de 200 millions de cavaliers, j'entendis le nombre, autrement dit, prenez pas ça au symbolique, c'est réel. Une armée gigantesque se met en marche, du soleil levant, sans doute direction du Moyen-Orient. Entre-temps, et l'Apocalypse 11 nous le décrit, entre-temps, la bête, l'Antichrist, aura pris le pouvoir. Aura pris le pouvoir ? Il a probablement reçu le pouvoir. La bête, on ne va pas le reconnaître à ses cornes. La bête, on ne va pas tous dire d'un commun accord « Ah, le voilà !» Nous allons peut-être avoir parmi nous des gens qui vont dire à d'autres qui disent « Ne serait-ce pas la bête ? Oh, mais quand même, t'es idiot ! On voit bien que c'est pas ça !» C'est un séducteur digne de son maître qui est le dragon. Il aura le pouvoir au prix d'une terrible persécution des chrétiens. Puis, après la sixième trompette, une autre parenthèse. Et dans cette parenthèse, nous est révélé 2 prophètes à qui, pendant 3 ans et demi, 1260 jours, un temps, des temps, la moitié de temps, 42 mois. La Bible le donne dans toute une série d'images comme pour nous dire, s'il vous plaît, ne commencez pas à vous. Vous imaginez que c'est symbolique. Il n'y a rien de plus littéral que cela. Que pendant une période de 3 ans et demi, ces 2 prophètes, nous ne savons pas qui ils sont. On a dit Moïse et Élie, mais ce n'est pas du tout sûr. Élie et Hénoc, mais ce n'est pas plus sûr. Ce n'est pas très important. Mais 2 hommes auront la terrible mission de porter témoignage à Dieu dans la ville de Jérusalem. Personne ne pourra rien contre eux jusqu'à ce que, quand les temps sont accomplis, la bête qui monte de l'abîme les terrasse et les tue. Et c'est la Saint-Nicolas partout, parce que les prophètes de Dieu sont morts. Et on se donne des cadeaux, comme au 6 décembre. Alors sonne la septième trompette. La septième trompette, c'est le centre du livre. Chapitre 11 et la parenthèse qui suit. Nous sommes là, je pense, vraiment au noyau fort, au noyau dur du livre de l'Apocalypse. Cette chose marque le temps de la septième trompette. Tout d'abord, il faut s'imaginer, parce que c'est ce que dit l'Apocalypse, la terre vient d'être touchée par les fléaux des six trompettes. Tout n'est pas détruit. La Bible nous dit que ces fléaux touchent un tiers chaque fois, de ceci, de cela, d'autre chose. Vous lirez le détail dans vos Bibles. C'est un avertissement extrêmement sévère de ce qui va arriver. La bête règne et mène la guerre aux saints. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse hors livre d'Apocalypse, une petite page publicitaire. Willy n'est pas venu pour nous présenter un livre, alors j'en ai amené un que je crois nous devons lire. Je n'ai jamais lu un livre aussi clair sur l'Antichrist que ce livre-ci. C'est un livre qui décrit ce qui s'est passé il y a 70 ans en Allemagne. La croix de Hitler de Erwin Lutzer. Erwin Lutzer est pasteur de l'église Moody à Chicago. Il décrit comment Hitler est venu au pouvoir, comment il a séduit l'église d'Allemagne. Pas seulement l'église catholique, l'église luthérienne. Au point que seulement une poignée a résisté. Et quand Hitler en a mis 800 pasteurs dans un camp de concentration, il n'en restait pratiquement plus que deux, Dietrich Bonhoeffer et Martin Niemöller. Ce livre décrit comment c'est possible qu'un homme rempli du diable, occultement possédé, ait pu prendre le pouvoir au point, j'étais choqué par cette phrase dans le livre, au point que Oswald Smith, les plus âgés parmi nous, vous vous rappelez peut-être du livre « La passion des âmes ». Oswald Smith, auteur de ce livre, pasteur anciennement de l'église, d'une église à Toronto, a visité l'Allemagne en 1936 et décrit, plein d'émotion, que Hitler est vraiment quelqu'un. Il n'a pas vu, même en 1936, quand l'église est déjà muselée. Un séducteur. Lisez ce livre. Vous saurez peut-être un petit peu mieux réagir quand ce sera notre tour de résister. Fin de la page publicitaire. À Jérusalem, je l'ai dit, aussi autour de la septième trompette, deux prophètes, les derniers, il n'y aura plus d'autres prophètes, c'est les tout derniers, viennent d'être tués. Et comme eux, des milliers et peut-être des dizaines et des centaines de milliers de chrétiens. Troisièmement, Christ, Apocalypse 11, verset 15, Christ entre dans son règne. Ça ne veut pas dire Christ revient parce qu'il ne revient pas encore. Il nous est dit que le temps est venu de punir ceux qui détruisent la terre et de récompenser tes serviteurs. C'est le temps où la colère de Dieu va éclater. Je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. Sept anges qui tenaient sept fléaux, ce sont les derniers fléaux, car ils sont l'expression finale de la colère de Dieu. Apocalypse 15, 1, dans la version de français courant. Le temps de la colère va éclater. La Bible nous dit que Christ nous a sauvés de la colère. Nous ne sommes pas destinés à traverser le temps de la colère de Dieu. L'Église fidèle, alors, sera arrachée in extremis aux griffes de la bête et réunie avec son maître. La septième trompette, je le pense, est la dernière trompette dont parle l'apôtre Paul, la dernière trompette qui sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Le temps des récompenses. Le temps pour la bête de se tourner contre Israël. Et en Apocalypse 12, 6, dans cette grande parenthèse, il est évident que l'arrachement de l'enfant mâle qui a été mis au monde par la femme, l'arrachement de cet enfant mâle est aussi vite suivi par la bête, par le dragon, qui se met à la poursuite de la femme, Israël, qui va trouver refuge pendant 1260 jours, pas pendant 2000 ans, pendant 3 ans et demi. Pour cela que l'arrachement de cet enfant mâle ne peut pas être l'ascension de Jésus. Ça n'a pas été suivi par les mêmes effets. C'est encore futur. L'enfant mâle, c'est donc Christ et son corps. N'est-il pas dit dans l'Écriture, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul n'a jamais persécuté Jésus. Si, il a persécuté le corps de Christ. L'enfant mâle, je pense, c'est l'Église fidèle qui sera enlevée in extremis. Entre-temps, toujours dans cette même époque de la septième trompette, a eu lieu une guerre au ciel. Michaël et ses anges ont évincé le dragon du ciel, celui qui accusait nos frères, qui nous accuse encore aujourd'hui, jour et nuit. Et nous le savons, n'est-ce pas? Vous avez déjà senti l'accusation de l'ennemi, la calomnie du calomniateur. Nous connaissons cela, tristement. Mais le jour va venir où il sera évincé du ciel. Commence alors le compte à rebours final, les 3 ans et demi derniers de notre monde. Les 7 coupes marquent le temps de la colère de Dieu et la désintégration d'un monde rebelle. Il faut les interpréter, je pense, exactement selon la même lignée que Apocalypse 8 et 9. Et sans doute, un des livres qui a vu le plus clair là-dedans est le livre autrefois édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, dont j'ai le titre quelque part. Bon, j'ai noté le titre quelque part et il va certainement venir. Voilà, « Guerre atomique et prophétie biblique ». Si vous possédez ce livre, relisez certaines parties qui méritent amplement le détour. Une autre parenthèse nous raconte, et je ne vais pas rester là-dessus, c'est trop compliqué pour faire en 2 minutes. Dans une autre parenthèse est alors révélé le mystère de la grande Babylone, la femme qui est montée sur la bête, l'Antichrist, et qui pendant un temps semble faire marché commun avec la bête. Puis Apocalypse 18 nous décrit comment cette femme est détruite et mise à nu par la bête. Tellement banale, une histoire de séduction, de calcul politique, de trahison et qui s'achève avec l'autodestruction. C'est tellement souvent ainsi dans notre monde. Et ça le sera à cette époque encore. Ainsi, la grande civilisation anti-Dieu est enfin arrivée à sa juste fin. Nous touchons à Apocalypse 16, 17 et 18, c'en est fini. Le mariage entre le commerce et la religion, la séduction rendue possible par le secours de l'occultisme, la persécution et le meurtre des hommes et des femmes de Dieu, trouvent ici leur rétribution juste. Cela, bien sûr, s'est vu tout au long de l'histoire. Mais ici, à la fin des temps, Dieu va intervenir directement et sur une échelle encore jamais vue depuis le déluge. Alors, où est-ce que tout cela aboutira ? L'Apocalypse est un livre terrifiant. Ce n'est pas un livre à lire juste avant de s'endormir. Ça donne des cauchemars. La terre des hommes est en miettes. Les jugements de Dieu ont détruit le bel édifice d'une civilisation sans Dieu. Mais ce n'est pas encore la fin. La bête a rassemblé ses troupes et marche sur Jérusalem. Zacharie 14 nous rappelle que Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers et reviendra en puissance. Apocalypse 19 nous le décrit. Entre-temps, les armées du soleil levant convergent, elles aussi, sur ce Moyen-Orient. La bête et son vendeur, le faux prophète, sont pris. Satan enchaîné, Christ établit son règne. Puis commence le temps des aboutissements. En deux mots, permettez-moi juste d'indiquer et juste de rêver en vous quelque chose pour dire, tiens, ça vaut la peine de regarder plus en détail. J'étais frappé par le parallélisme étonnant, époustouflant, entre le livre du prophète Ézéchiel et l'Apocalypse. Non pas qu'on peut superposer ces livres, c'est des réalités parallèles, comme des rails qui ne se touchent jamais, mais qui décrivent la même réalité autrement. Ézéchiel pour le peuple d'Israël, Jean dans l'Apocalypse pour les chrétiens. Et puis, à la fin du millénium, ces deux rails semblent pour un moment s'effleurer. Quand au même moment, à la même place, au même endroit, et c'est ça ce qui est époustouflant, dans le livre d'Ézéchiel comme dans l'Apocalypse, nous trouvons la terrible attaque de Gog et de Magog. Ce parallélisme, je pense, est là pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe à la fois pour le peuple d'Israël et pour le peuple chrétien. Le rail d'Israël, Dieu ne l'a pas encore arrêté. Dieu n'a pas encore amalgamé les deux rails définitivement dans un seul. Dans un sens, c'est déjà le cas, parce que l'Église de Jésus-Christ est un ensemble de juifs et de païens, même si nous, les païens, on est un peu plus nombreux que les juifs. Mais le rail d'Israël, Dieu n'a pas encore arrêté. Nous l'avons entendu ce matin, Dieu s'occupe encore de son peuple. Puis dans un temps lointain, écrit Ézéchiel au chapitre 38, il y a un peuple qui habite en sécurité dans un pays ouvert. Un peuple qui a été recueilli du milieu des nations. Non pas un peuple qui connaît une longue période d'insécurité, mais un peuple qui est en paix et qui brutalement est frappé par l'ennemi. Cette situation de paix prolongée, Israël ne l'a jamais connue. C'est encore futur. Gog, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour au-delà, nous disent à la fois le livre d'Ézéchiel et le livre de l'Apocalypse. Et puis, à la fin, les deux livres terminent avec une vision de gloire, l'aboutissement. Ézéchiel voit un nouveau temple dans une nouvelle Jérusalem, sur terre. Et Jean voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Ce n'est pas la même chose. C'est deux réalités différentes. L'une est dans les dimensions d'aujourd'hui, dans les trois dimensions de l'espace-temps que nous connaissons. L'autre, cette nouvelle Jérusalem qui descend, est bien sûr dans une autre dimension. Elle descend d'auprès de Dieu. Elle est la réalisation de toutes les promesses qui disent que l'Église, telle une épouse sans tache ni ride, descendra d'auprès de Dieu. Alors, on sera sans tache ni ride. Alors, le chantier parfois terriblement défiguré qu'est l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui sera devenu une merveille de beauté. Et nous serons émerveillés de ce que Dieu a fait. peuple juif connaîtra cette réalité, mais autrement. La Bible, me semble-t-il, nous dit assez clairement qu'il y aura des survivants aux affres de la fin des temps. Et le peuple d'Israël, Dieu le recueillera et Dieu établira son temple au milieu d'eux. Je pense que c'est ce temple que Ézéchiel décrit. Pendant des années, je n'ai pas vraiment su comment comprendre. J'ai écrit ça dans un de mes livres précédents. Je ne sais pas à quoi ça rime. Je pense que peu à peu, l'impression de comprendre un peu mieux, qu'il y aura à la fois un temple pour les Juifs et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Je pense que les deux auront une assise géographique dans notre monde. Je ne sais pas comment. Je ne sais que lire. Je ne sais que recueillir ce que les prophètes ont dit. Cette autre dimension, rappelez-vous de la résurrection de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont vu et qui n'ont rien vu du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont dû voir le Christ et qui ne sont jamais rendus compte que c'était le Christ ressuscité. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont rien vu du tout parce qu'il fallait que Christ ouvre les yeux pour qu'on voit. C'est de cette dimension, me semble-t-il, qu'est la nouvelle Jérusalem. Une ville symbolique, une ville étonnante, une ville remplie de symboles, une ville cube, comme le lieu très saint dans le temple et dans le tabernacle. Une ville faite de 12 000 stades de largeur, de longueur et de hauteur, environ 2 220 kilomètres. Imaginez la station spatiale qui vogue à environ 350 km au-dessus de nos têtes. 2200 km. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je ne suis pas très prêt. Je ne suis plus très prêt à dire « Oh, c'est symbolique, donc ça veut dire autre chose. » Non, c'est symbolique. Mais ça ne veut pas dire autre chose. C'est à la fois la réalité et beaucoup plus que la réalité. Les 12 portes au nom des 12 tribus d'Israël. Les 12 fondements au nom des 12 apôtres. Comment ne pas y voir le symbole? Et en même temps, Jean l'a réellement vu. C'est ainsi. Les nations, les peuples nombreux qui constituent l'Église de Jésus-Christ et le fleuve d'Apocalypse 22 qui symbolise à merveille ce que devrait faire et être l'Église dans notre monde, un fleuve aux arbres nourrissants, guérissants, rafraîchissants. N'est-ce pas là notre mission dans ce monde? Et pourtant, ce que j'en vois va bien au-delà. Nous le sommes si imparfaitement. Et ce que j'en vois est la réalité parfaite qui doit venir. Une ville symbolique, sans aucun doute, mais en même temps beaucoup plus que symbolique. Une ville de lumière. Comme nous sommes censés être la ville de lumière, qui ne peut pas rester cachée car établie sur une haute montagne. Nous devons être cette cité de lumière, mais là, la cité de lumière dans toute sa gloire, la gloire du Dieu Tout-Puissant, la Shekinah reposera sur elle. Alors, tout sera bien. En attendant, c'est toujours le chantier. Ce n'est pas fini. L'Église s'est remplie de zones d'ombre, de taches et de rides, et nous les connaissons fort bien. Ce n'est pas très parfait dans nos églises. Nos églises ne sont pas le règne de Dieu sur terre. Du moins, que très imparfaitement. Mais là, ce sera parfait. Et en attendant, nous voulons préparer cela. Nous voulons entrer dans la lumière, marcher dans la lumière, refléter la lumière. Cette ville est ouverte parce que les portes ne sont jamais fermées. Et pourtant, elle est fermée parce que sur chaque porte se trouve une garde qui ne sommeille jamais. Et rien d'impur n'y entrera. Qui peut entrer dans cette ville? L'Apocalypse nous dit « Ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau ». Mes amis,
On a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, pour tout, il faut s'inscrire sur Internet. Pas pour ça.
Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-il vrai que votre nom s'y trouve? Êtes-vous sûr? Ne dites pas, oh pasteur, on ne peut pas être sûr de cela. C'est ce que moi j'ai cru au début de ma vie chrétienne. Et c'est un bon pasteur réformé qui m'a guéri de cette ineptie. Avec une simple illustration. Il dit, vous imaginez que la princesse Béatrix, maintenant elle est presque succédée par son fils, vous comprenez quel âge je dois avoir. Elle était encore princesse. Vous imaginez, dit-il, qu'à la princesse Béatrix, on lui demande, est-ce que tu es la fille de la reine?
Ah, vous savez, je n'en sais rien. Je fais mon mieux.
J'ai compris. J'espère que vous avez compris. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Si vous dites « j'espère », c'est que probablement ce n'est pas le cas. Et vous ne devriez pas partir d'ici sans en être sûr. Allez trouver un autre chrétien de votre église. Prenez du temps pour prier ensemble et pour accepter Jésus-Christ, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ceux-là seuls peuvent entrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est une ville sainte. Dieu est présent. Dieu habitera au milieu de son peuple. Une ville ouverte pour les autres et qui servira de guérison pour les autres. Et c'est avec cela que se termine la vision de l'Apocalypse. Cet aboutissement glorieux. Quand ce que nous sommes aujourd'hui, avec souffrance et imperfection, va enfin atteindre la perfection et qu'apparaîtra la glorieuse épouse que nous sommes et que nous sommes si mal. Alors, tout sera parfait. Alors, la gloire sera. Alors, nous verrons tel qu'il nous a vus. Alors, nous serons semblables à lui. Alors, c'est le moment de tous les accomplissements. Mes amis, ce temps va venir. Et ce temps, nous devons l'attendre. Ça, c'est beaucoup plus passif. Et nous devons le préparer et le hâter. Ce qui est bien sûr autrement plus actif. Et je pense qu'à la fin de notre journée, en ayant parlé sur le retour de Christ, nous devons, me semble-t-il, nous poser quelques questions. Si nous sommes là, peut-être mieux de dire les générations, parce que nous sommes ici à 3 ou 4 générations, si nous sommes les générations qui verra la fin de toute chose, et je pense que nous le sommes, ça c'est ma conclusion. Si nous sommes ces générations-là, comment allons-nous passer le reste de notre temps, ce peu de temps que Dieu nous donne? Il me semble que nous sommes devant un choix évident. Nous pouvons surfer sur les vaguelettes de notre carrière, de nos projets, de nos loisirs, de tant de choses qui sont parfaitement bonnes et légales et justes, mais qui sont, me semble-t-il, terriblement en deçà de ce que Dieu veut pour nous. Nous pourrions aussi oser surfer sur la grande vague du grand plan de Dieu et dire, Seigneur, ces quelques années qui me restent seront à toi. Je vais me donner à toi. Quand je me suis converti en 1969, fin février, dans mon cot à Amsterdam, j'ai plié le genou devant Dieu et je lui ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Où que ce soit, si Seigneur m'avait dit que ce serait en francophonie, j'aurais dit, Seigneur, je retire ça tout de suite. Quand j'ai quitté le secondaire, j'ai dit concernant 2 choses, les mathématiques et la langue française, plus jamais ça. Dieu m'a écouté qu'à moitié. Je veux te suivre où que ce soit et coûte que coûte. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à dire ça à Dieu aujourd'hui? Si vous êtes la génération, si nous sommes la génération qui devra résister à la bête, est-ce que cela va influencer notre vie demain et après-demain? Est-ce que cela va changer nos projets concernant notre avenir? Est-ce que cela veut dire que peut-être il faudra aller trouver notre frère James et s'inscrire à l'Institut biblique parce que Dieu a besoin d'ouvriers? Il me semble que Dieu n'en voit plus. Ou alors, c'est que nous sommes devenus sourds. Est-il temps de laver ses oreilles pour que Dieu puisse nous parler? Est-il temps de considérer que la plupart des sociétés missionnaires représentées sur les stands ont besoin de gens et ont besoin de finances et que ces deux choses sont abondamment présentes parmi nous, avec une abondance qui nous laisserait pantois si nous devrions cumuler l'ensemble des avoirs financiers représentés par nous? On tomberait à la renverse. Il y a de l'argent et il y a des gens. Nous sommes là. Nous sommes là quoi? 600? 650? Il y a du monde. Il y a du monde pour soutenir. Il y a du monde pour partir. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je propose que nous inclinons nos têtes et que nous prions ensemble. Peut-être qu'en nous tenant devant Dieu, devant la majesté divine, celui qui doit venir et qui viendra, peut-être qu'il est temps de prendre des décisions et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je promets que je vais te suivre, que je vais arrêter de jouer à ma propre vie et que je vais m'occuper de ton royaume. Peut-être qu'il est temps de dire cela à Dieu aujourd'hui, peut-être audiblement, peut-être dans le cœur, mais de le dire et de savoir qu'on l'a dit et que Dieu peut revenir dessus et nous dire, je veux que tu me serves là, en telle capacité, et je te donnerai ce dont tu as besoin. Ô Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous ne sommes que des faibles humains. Nous imaginons, Seigneur, que tu pourrais faire beaucoup mieux avec les anges, mais tu as choisi de travailler avec nous. Nous nous imaginons que tu avais bien plus de chance dans les autres générations, quand il y avait encore des géants spirituels, mais tu as choisi de faire avec nous. Seigneur, nous nous considérons comme des nains, mais Seigneur, au moins, que nous puissions être conscients que nous sommes assis sur les épaules de géants et que nous voyons peut-être plus loin qu'eux, grâce à eux. Seigneur, que nous puissions nous consacrer à ton œuvre. Seigneur, tu connais les cœurs, nos cœurs. Seigneur, tu connais nos projets, nos rêves, nos craintes, nos appréhensions. Quand nous lisons ce livre, il y a de quoi avoir peur. Mais Seigneur, nous nous tenons devant toi. Nous savons que c'est toi qui mènes la barque, c'est toi qui mènes notre barque. Et c'est ce qui nous donne confiance. Craindrai-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Ô Seigneur, que cela soit vrai pour chacun de nous. et qu'ainsi, avec audace et hardiesse, nous puissions nous engager pour toi.